Bien, nous allons recommencer. Réfléchir à l'esprit de l'égalité dans les révolutions françaises et américaines, c'est être amené à faire la distinction en ce que j'appellerais une égalité mesure et une égalité relation. Lorsqu'il publie « De l'esprit de la Révolution » de 1789, Roederer, qui est l'une des grandes figures de l'Assemblée constituante, écrit « L'affection qui a décidé le premier éclat de la Révolution, excité ses plus violents efforts, obtenu ses plus grands succès, c'est l'amour de l'égalité. Et le premier motif de la Révolution, poursuit-il, a été, je le cite, « l'impatience des inégalités ». Et nous pouvons nous contenter de souligner qu'il parle d'égalité des droits pour saisir, en la réduisant, la portée de son jugement. Pour Roederer, en effet, la passion égalitaire était en effet une et globale. L'égalité ne se dissociait pas en différentes figures. Et Roederer n'avait rien d'en enragé, je le rappelle, puisque c'était un des modérés de l'Assemblée, dont l'idéal était, pour simplifier, proche de celui de Thiers, celui d'un libéralisme démocratique, et qu'il deviendra, à côté de Bonaparte, un des consuls. Et donc, nous ne devons pas projeter sur ses propos les restrictions et les bornes que nous utilisons aujourd'hui pour segmenter l'idée d'égalité en notions dont la radicalité et le champ iraient croissant, de la républicaine égalité des droits à la communiste communauté des biens. Ces distinctions n'existait pas au moment des révolutions françaises et américaines. Et nous devons en outre rappeler que l'égalité et la liberté que nous présentons et qui ont été présentées à partir du XIXe siècle comme volontiers antinomiques ou constituant du moins des valeurs en tension étaient comprises comme indissociables au moment de ces deux révolutions. L'égalité, dans le cas américain, autant, voire même plus que dans le cas français, étant considérée comme matricielle. Et nul ne doutait, dans ces deux révolutions américaines et françaises, que l'égalité ait été l'idée mère ou le mot de ralliement, je prends des expressions que l'on trouve dans les deux côtés de l'Atlantique, des deux processus en cours. Aux États-Unis, c'est quelque chose de frappant qui était oublié, mais qui était très bien illustré par la renaissance de l'historiographie de la Révolution américaine, notamment à travers les travaux de Gordon Wood et de Bernard Baylin, qui ont insisté sur cette dimension égalitaire des processus américains. On sait qu'on distingue classiquement depuis Aristote deux types d'égalité. L'égalité distributive, qui a pour objet la répartition des ressources, et l'égalité commutative, appelée à régler les échanges. On pourrait parler, dans le premier cas, de ce que je vais appeler une égalité mesure, une égalité dont le but est d'allouer à chacun des biens ou des droits, tandis qu'il s'agit, dans le second cas, d'une égalité relation qui est fondée sur la détermination des équivalences qui organise les interactions entre individus. Notre attention contemporaine s'est polarisée sur l'égalité mesure. Le sentiment qu'il fallait réduire les inégalités, conduisant par exemple à la fixation de normes redistributives en matière de richesse ou autre. Et le débat sur cette catégorie se noue logiquement autour de deux points. Les conditions de la distinction entre un partage juste et un partage arithmétique d'autre part, toute la question des discriminations positives par exemple, et la nature d'autre part des ressources à distribuer. Dans le premier cas, ce sont des variables comme celle du mérite, de la responsabilité, de l'héritage ou des besoins fondamentaux dont le rôle sera discuté. Tandis que dans le second, c'est la catégorisation des ressources concernées qui sera en jeu. Et comme je l'ai signalé rapidement tout à l'heure, ce sont pour cela les œuvres de Rawls et de Sen qui font spontanément référence en la matière. Mais pour comprendre l'esprit de l'égalité dans les révolutions américaines et françaises, ça n'est pas à ce type d'égalité redistributive qu'il faut se référer. C'est en effet bien davantage dans les termes de ce que j'appelle une égalité-relation que s'est alors exprimé l'impératif égalitaire. Comment préciser cette notion ? Comprise comme une relation, l'égalité est d'abord une qualité active, alors que l'égalité mesure est passive et d'ordre quantitatif. Égalité signifie dans ce cas réciprocité, réversibilité, équivalence. Être l'égal d'autrui, c'est être pour lui ce qu'il est pour moi. C'est, pour reprendre un mot vieilli mais très parlant, être des commensaux. Des commensaux, ce sont ceux qui mangent à la même table, c'est-à-dire qui font sensiblement société. C'est une question de qualité d'échange, d'interaction entre les individus. Et cela définit un type de position relative qui exclut évidemment la dépendance, le mépris, le dénivelé, bref, tout ce qui tend à produire des mondes séparés. Mais plus positivement, c'est aussi partager une activité, constituer un monde pleinement commun. Le but premier est dans ce cas la constitution d'une société des égaux. Il n'est pas de mesurer relativement des individus. Et l'édification d'une telle société des égaux se définira donc d'abord négativement par le rejet de tout ce qui institue des divisions sous des espèces de hiérarchies fixes ou de privilèges, ou la critique des situations individuelles et sociales qui font obstacle à la réciprocité. Elle est donc toujours soumise à la discussion, liée à la formation de critères publiquement élaborés. L'égalité-mesure n'est pas perdue de vue dans ce cadre, mais elle n'est appréhendée que secondairement, lorsqu'elle constitue une variable déterminante de la qualité d'une société des égaux. Et on peut distinguer, comme je l'ai indiqué rapidement tout à l'heure, trois figures de cette égalité-relation : la similarité, l'indépendance et la concitoyenneté. La similarité est de l'ordre d'une égalité-équivalence. Être semblable, c'est présenter les mêmes propriétés essentielles, les différences restantes n'entachant pas la qualité de la relation. L'indépendance, elle renvoie à une égalité-autonomie. Elle se définit négativement comme absence de subordination et positivement comme équilibre de l'échange. La citoyenneté est quant à elle une égalité-participation. C'est la communauté de l'appartenance qui la constitue. L'égalité-relation s'institue en conséquence sous les triples espèces d'un monde de semblables, je dis bien d'un monde, d'une société d'individus autonomes et d'une communauté des citoyens. Il y a donc trois figures sociologiques, monde, société, communauté, avec les trois principes qui l'organisent. Et c'est au développement de ces trois modalités que nous allons consacrer les premières heures de ce cours. Je signale très rapidement, j'y reviendrai, que cette catégorisation présente l'intérêt conceptuel de dépasser les distinctions classiques entre démocratie ancienne et démocratie moderne. Elle permet aussi de traiter les sociétés primitives avec des outils d'analyse proches de celui des sociétés modernes. Une conceptualisation de ce type permettrait, par exemple, d'analyser et de resituer les fameuses pages de Marcel Mauss sur le don et les échanges d'objets comme étant équivalents à des relations entre les hommes dans une même économie de l'égalité. C'est juste pour donner un petit aperçu rapide de ce à quoi peut servir cette conceptualisation. Je commence donc par le premier point de cette investigation, celui de la définition d'un monde de semblables. Il n'y a pas de meilleur guide que Sieyès, l'auteur de « Qu'est-ce que le tiers-État ?» pour comprendre comment l'idée d'égalité s'est confondue en 1989 avec un rejet viscéral de la figure du privilégié. Le privilégié, écrit Sieyès, se considère avec ses collègues comme faisant un ordre à part, une nation choisie dans la nation. Il pense qu'il se doit d'abord à ceux de sa caste. Et s'il continue à s'occuper des autres, ce ne sont plus en effet que les autres, ce ne sont plus les siens. Ce n'est plus ce corps dont il est membre. Ce n'est que le peuple qui, bientôt dans son langage, ainsi que dans son cœur, n'est qu'un assemblage de gens de rien, une classe d'hommes créée tout exprès pour servir, au lieu qu'il ait fait, lui, pour commander et pour jouir. Oui, les privilégiés en viennent réellement à se regarder comme une autre espèce d'homme. Se regarder comme une autre espèce d'homme, c'est bien l'antinomie de la similarité. Refuser d'être considéré comme étant d'une espèce inférieure, tel est le moteur qui alimente la colère et le ressentiment de ceux qui vont mettre fin à l'ancien régime. Et il est significatif que Tocqueville retrouve significativement un demi-siècle plus tard les mots exacts de Sieyès pour comprendre l'univers aristocratique comme un monde noble qui sont persuadés de leur singularité radicale. Il écrit dans La démocratie en Amérique, c'est à peine s'ils croient faire partie de la même humanité. Ce sont les mots mêmes donc de Sieyès. D'où, à l'inverse, sa définition de la démocratie comme une société de semblables. On peut comprendre aujourd'hui l'aspiration de l'époque à cette égalité-similarité sans prendre la mesure sensible de ce qu'était l'esprit de distinction qui animait la noblesse de l'époque. On peut là encore partir de Sieyès. Pour justifier les analyses de son essai sur les privilèges, le père de la Constitution française a joint à son pamphlet une seule pièce historique. Une intervention qui était faite aux États de 1614, ce sont les derniers États généraux de la monarchie avant 1789, par le baron de Sensé, qui était alors le président de la noblesse. S'il cite ce seul exemple, c'est dire qu'il le considère évidemment comme exemplaire. Cette pièce est composée par une adresse qui avait été faite au roi par Sensé, le président de la noblesse, adresse qui faisait suite à l'interpellation de députés du tiers-état qui demandaient à être considérés avec plus d'égard et qui avaient noté « Traitez-nous comme vos frères cadets et nous vous honorerons et nous vous aimerons », avait-il lancé aux représentants de la noblesse. Et le fait de demander à être traité comme des frères cadets avait été considéré comme une insulte insupportable. Et c'est la seule adresse que la noblesse a adressée au roi à cette époque. Voilà quels sont les termes de cette adresse. « J'ai honte, sire, dit Sensé, de vous dire les termes qui de nouveau nous ont offensés. Ils comparent votre état à une famille composée de trois frères. Ils disent l'ordre ecclésiastique être l'aîné, le nôtre le puîné, et eux les cadets. En quelle misérable condition sommes-nous tombés si cette parole est véritable? En quoi tant de services rendus d'un temps immémorial, tant d'honneur et de dignité, transmis héréditairement à la noblesse et mérités par leur labeur et fidélité, l'aurait-il bien, au lieu de l'élever, tellement rabaissé qu'elle fût, avec le vulgaire, en la plus étroite sorte de société qui soit parmi les hommes, qui est la fraternité. Rendez, sire, le jugement, et par une déclaration pleine de justice, faites-les remettre en leur devoir et reconnaître ce que nous sommes, la différence qu'il y a et qu'ils ne peuvent en aucune façon se comparer à nous. Cette supplique à conserver la noblesse en ses prééminences emploie les mots exacts de ce qui était ressenti comme l'expression même de l'insupportable, la prétention à constituer une humanité séparée, le refus de l'idée même d'être membre d'une même famille et la stigmatisation de ceux qui osent se comparer et méconnaissent ainsi leurs conditions. Depuis le XVIe siècle au moins, la noblesse se considérait en effet ouvertement comme constituant une race à part. Le terme était certes entendu dans un sens différent de celui que nous lui connaissons aujourd'hui. Race voulait alors dire lignée, extraction, et c'était typiquement d'ailleurs un mot de la langue aristocratique, sans comporter de référence à des distinctions d'ordre physiologique ou ethnique. Il renvoyait cependant bien à l'idée de qualité sociale qui se transmettait héréditairement par le sang. Je fais référence là aux travaux classiques d'Arlette Joannat sur l'idée de race en France au XVIe et au début du XVIIe, et au livre fameux de André de Vivaire sur le sang épuré, les préjugés de race chez les gentilshommes français. L'idée de race fondait une vision hiérarchique du monde dans laquelle les distinctions de conditions trouvaient leur origine dans des différences intrinsèques de qualité. Et elle s'imposera à ces hommes du XVIe siècle comme une sorte d'évidence issue d'un mode de perception spontané qui les amenait à lire dans la diversité apparemment contingente des groupes sociaux une hiérarchie préordonnée d'espèces socio-naturelles. Ils pensaient voir autant d'espèces hommes que de conditions sociales, tous participant certes d'une même nature, mais héréditairement différenciés par leur comportement et leur valeur humaine inégale. Et la nouvelle vision des liens entre la nature et les hommes véhiculée par la Renaissance conduira ainsi à reformuler complètement la vision précédente de la hiérarchie sociale. La vision pré-Renaissance de la hiérarchie sociale est celle d'une tripartition fonctionnelle, la fameuse distinction entre ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Alors que le nouveau rapport à la nature de la Renaissance naturalisera les différences qui étaient fonctionnalisées dans le monde féodal. Et des historiens du XVIIIe siècle se chargeront ensuite de justifier d'une autre manière ce racisme nobiliaire en assurant que les nobles, c'est la thèse, on le sait, de Boulainvilliers, étaient les descendants directs des Francs qui avaient asservi les Gallo-Romains. Et donc, puisque le sang germain, celui des vainqueurs, coulait dans leurs veines, leur supériorité et leurs droits étaient ainsi structurellement, si je puis dire, établis. Et si cette thèse était contestée, elle était suffisamment vivante avant même quelques années avant la Révolution pour qu'un Mably leur consacre une longue réfutation dans ses observations sur l'histoire de France. Et en 1790 même, alors qu'il vient à l'Assemblée pour apporter son soutien en réforme en cours et dire se féliciter de la suppression des différences d'ordre et d'État, Louis XVI a eu les mots suivants. Il a dit « Je tiens à souligner l'ancienneté et la continuité des services d'une race honorée ». C'est-à-dire qu'en 1790, un an après le début de la Révolution, Louis XVI pouvait employer ces mots « race honorée » pour parler des nobles devant l'Assemblée constituante pourtant. Et bien sûr, l'Assemblée constituante s'est attelée dès ses premières heures à clouer au pilori ses représentations et en détruire les traditions concrètes en termes de privilèges fiscaux, de droits exclusifs ou de barrières professionnelles. Et même s'il n'en constitue qu'un volet, le décret pris dans la nuit du 4 août symbolisera cette entreprise en opérant, selon les mots de Grégoire, ce grand abattis nécessaire dans l'immense forêt des abus. Mais on ne peut cependant rester là pour caractériser l'esprit d'égalité qui marque la période. L'aspiration à constituer une société de semblables est en effet loin de se limiter à la dénonciation des manifestations les plus outrées de l'ordre aristocratique. Quand il dénonce l'univers des privilèges, un sieyès n'instruit pas seulement le procès des exemptions légales, des fantasmagories de race et des élucubrations historiques. Il se livre à une critique plus globale des prétentions sociales à la supériorité et à la distinction. Et le terme de « privilégié » s'étend en fait pour lui à tous ceux qui estiment, je le cite, qu'ils ne sont point faits pour être confondus, qu'ils ne sont point faits pour être côte à côte et pour se trouver ensemble. Et c'est une propension multiforme à l'isolement, au séparatisme qu'il visait. L'invention du terme « aristocrate » date d'ailleurs de cette période. Et elle a lié à partir de ce moment, de façon aussi commode que vague, les multiples façons qu'avait le peuple d'éprouver des situations de distance sociale, de mépris, d'exclusion, de confrontation à des barrières infranchissables. Chose significative, le terme d'aristocrate aura plus de succès encore aux États-Unis qu'en France. C'est dans un pays où il n'y avait pas eu de noblesse que le qualificatif d'aristocrate a été le plus employé dans la langue populaire pour dénoncer les formes de supériorité. Et dans l'Amérique de 1830, le mot aristocrate a une importance beaucoup plus grande qu'il a dans la France de la même époque. C'est pour cela, d'ailleurs, que cette stigmatisation de l'aristocratie, elle a pu être aussi structurante en Amérique qu'en France. C'est en effet le monde hiérarchique de la vieille société coloniale qui était rejeté au moment de la Révolution américaine, et non pas simplement celui des privilèges légaux qui, bien sûr, n'existait pas. Un monde qui était resté marqué par un sens tout britannique de l'ordre et de la déférence, en Nouvelle-Angleterre tout particulièrement. En 1761, le jeune John Adams, qui deviendra, on le sait, un des pères fondateurs de la Nouvelle République, estimait par exemple encore qu'une société ne pouvait fonctionner que si une stricte distinction des rangs était maintenue. Et 20 ans plus tard, le même reconnaîtra que c'est le rejet viscéral de cet ordre qu'il appelait de ses voeux qui constituait, je le cite, la source secrète de la Révolution. Et si les notables fédéralistes ont toujours cru à la nécessité d'un gouvernement du pays par une aristocratie naturelle, le thème revient sans arrêt et l'expression dans leurs écrits, l'égalité fut pourtant un des grands cris populaires de ralliement du mouvement. Et dans les colonies, du Nord comme celle du Sud, les hommes exprimaient avec insistance le dégoût que leur inspirait ce qu'ils appelaient les airs de sagesse ou l'affectation frivole de la politesse, c'est-à-dire les modalités de la civilité, peut-être les plus superficielles, mais aussi parfois les plus durement ressenties de la différence de conditions. Et cette perception de la Révolution comme conflit entre le peuple et l'aristocratie a été spécialement sensible dans l'État clé de la Révolution américaine, la Pennsylvanie. « Béni soit l'État qui met tous les hommes à un même niveau », il disait souvent les hommes du peuple, qui exaspéraient ceux qu'il qualifiait significativement de « gentilshommes ». Et en 1986, les représentants de la Pennsylvanie déclarèrent solennellement « A democratic government like ours admits of no superiority ». Et donc, c'est l'idée même de supériorité qui est jugée inadmissible. Et c'est pourquoi ils se félicitaient de l'avènement de ce régime républicain, celui qui était supposé mettre fin aux supériorités et créer, j'emploie l'expression de Thomas Mann, créer non pas simplement une république, mais un nouveau peuple. Et d'ailleurs, lorsqu'un des membres les plus éminents de la jeune Assemblée constituante, Rabault-Saint-Étienne, pourra rapprocher l'esprit des deux révolutions, il notera « Comme les Américains, nous voulons nous régénérer. » Se régénérer, c'est bien l'idée d'une humanité réconciliée, d'une humanité devenue une. Comment expliquer l'irruption de cet esprit d'égalité auquel s'est identifiée la Révolution moderne ? En France et en Amérique, mais on pourrait dire aussi en Angleterre, et quelques années après à Saint-Domingue, avec la question du rapport entre noirs et blancs. Cet esprit d'égalité s'est-il soudain imposé comme l'impératif inédit d'un nouvel univers en gestation, ou n'a-t-il fait que porter à l'incandescence les braises dormantes d'un foyer endormi? Et comment décrire, plus précisément, l'aspiration à la constitution d'un monde de semblables qui caractérise au premier chef cet esprit d'égalité? Dans l'introduction de sa démocratie, Tocqueville a souligné le caractère moteur du facteur religieux, notant le christianisme qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu ne répugne pas à voir tous les citoyens égaux devant la loi. L'égalité démocratique n'aurait ainsi fait qu'accomplir une promesse depuis longtemps ouverte. Et la révolution moderne ne serait que l'héritière de la révolution chrétienne. Je cite toujours Tocqueville. « Les génies les plus profonds et les plus vastes de Rome et de la Grèce, dit-il, n'ont jamais pu arriver à cette idée si générale, mais en même temps si simple, de la similitude des hommes. Il fallut que Jésus-Christ vînt sur terre pour faire comprendre que tous les membres de l'espèce humaine étaient naturellement semblables et égaux. » Il y a effectivement bien des textes de la Bible qui peuvent être mobilisés pour plaider la corrélation. Et très souvent, on a cité la fameuse lettre de Paul aux Galates, dans laquelle l'apôtre affirme qu'il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous ne font qu'un dans le Christ Jésus. Pour conforter cette interprétation, on peut aussi souligner la centralité des arguments théologiques au XVIIe siècle. Les libéraux du XVIIe siècle, je prends évidemment l'exemple majeur de Locke, ont prétendu démontrer que les principes de la Révolution anglaise avaient tous une origine strictement biblique, puisque c'est à travers une interprétation de la Genèse que Filmer avait défendu le principe de la monarchie traditionnelle. Et c'est en bataillant contre Filmer que dans de longs chapitres des traités de gouvernement, en particulier du premier, Locke a défendu son égalitarisme radical en se fondant uniquement sur la catégorie des espèces qui était mentionnée dans la Genèse. Le livre qui a le plus récemment fait le point sur cette argumentation théologique de Locke est le livre de Jeremy Waldron, God, Locke and Equality, sur les fondations chrétiennes de la philosophie politique de Locke. On ne saurait contester cette dimension égalitaire du message chrétien, mais s'agit-il pour autant d'un type démocratique d'égalité ? Rien n'est moins sûr à mes yeux. Cette égalité est en effet essentiellement spirituelle, et elle ne se lie pas à une perspective directement sociale ou politique. Si l'Église n'a cessé d'enseigner le principe d'égalité naturelle entre les hommes, elle n'en tirait aucune conséquence révolutionnaire. En témoigne, ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, le premier grand traité de morale chrétienne domestique, l'institution des laïcs de Jonas, l'évêque d'Orléans. C'est un texte du tout début du IXe siècle. Il était publié juste à la fin du règne de Charlemagne. C'est un ouvrage qui affirme ainsi très fortement que les riches et les pauvres, de même que les maîtres et leurs esclaves, sont des égaux naturels. Et le livre apparaît très moderne de ce point de vue-là. Mais en même temps, il n'en tire aucune conclusion sur le fait qu'il faudrait supprimer l'esclavage ou qu'il faudrait rapprocher les conditions. L'idée est d'insister au respect, à l'attention, à la considération d'autrui, d'appeler à reconnaître la valeur singulière de chaque être humain, de considérer, tout simplement, que tous participent d'une unique économie du salut. Bref, d'en déduire un devoir moral de charité, mais point un modèle politique, quel qu'il soit. En témoigne une étonnante coutume du monde aristocratique de l'Ancien Régime, celle de faire tenir ses enfants sur les fonts baptismaux par des pauvres de la paroisse. Montaigne et Montesquieu ont raconté cet épisode. Il s'agissait par là d'affirmer un sentiment d'égalité chrétienne envers les déshérités, mais peut-être aussi de conjurer par une manifestation initiale d'humilité la menace d'une véritable subversion sociale. Il est donc nécessaire de bien distinguer ce qu'on pourrait appeler une égalité d'humanité et une égalité de société. Le message chrétien a été évidemment celui d'une égalité d'humanité, mais n'a pas été celui d'une égalité de société. Et il est essentiel de faire la distinction. Lorsqu'il oppose les grandeurs naturelles aux grandeurs d'établissement, dans ses trois discours sur la considération des grands, un Pascal en vient d'ailleurs significativement à une catégorisation de ce type. Mieux, il en déduit de cette distinction une possible morale à l'usage des puissants. S'adressant à ces grands, Pascal leur tient en effet un double discours. Il leur rappelle d'abord qu'en tant qu'êtres humains, ils ne valent que par leurs talents ou leurs vertus, que leurs qualités ne tiennent qu'à leurs actes et qu'ils ne diffèrent à cet égard en rien du commun des mortels, qu'ils sont soumis comme tous au regard du peuple, comme au jugement de Dieu, et que leur état naturel est de se trouver, dit-il, dans une parfaite égalité avec tous les hommes. Un prince ou un roi, insiste Pascal, doit en outre jamais oublier que sa position ne tient qu'à une infinité de hasards, le premier de ces hasards tenant au fait que les attributs de sa naissance sont liés au fait que sa naissance résulte d'une série d'enchaînements et d'événements parfaitement fortuits. Mais Pascal reconnaît simultanément la légitimité des grandeurs d'établissement, ses distinctions et ses supériorités qu'il juge nécessaires au bon fonctionnement de la société. Et c'est pour cela que l'existence d'une noblesse ne le gêne nullement. Tout en soulignant que ces distinctions ne sont que socialement instituées et en reconnaissant qu'elles sont socialement instituées, il admet même que ce caractère conventionnel reste dissimulé aux yeux du plus grand nombre. Cette dissimulation pouvant, à ses yeux, être la condition implicite de leur efficacité. Il enjoint simplement aux puissants de ne pas s'aveugler et de rester conscients de la réalité de la différence entre ces deux grandeurs naturelles et d'établissement. Si vous agissez extérieurement, vous devez avoir, leur dit-il, une double pensée au grand. Si vous agissez extérieurement avec les hommes selon votre rang, vous devez reconnaître, par une pensée plus cachée mais plus véritable, que vous n'avez rien naturellement au-dessus d'eux. Si la pensée publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une parfaite égalité avec tous les hommes, car c'est votre état naturel. Le peuple qui vous admire ne connaît peut-être pas ce secret. Il croit que la noblesse est une grandeur réelle. Il considère presque les grands comme étant d'une autre nature que les autres. Ne leur découvrez pas cette erreur, si vous voulez, mais n'abusez pas de cette élévation avec insolence. Et surtout, ne vous méconnaissez pas vous-même en croyant que votre être a quelque chose de plus élevé que celui des autres. Et pour Pascal, le message chrétien ne se lie donc nullement à une application du principe d'égalité naturelle aux institutions sociales et politiques. Il en déduit seulement une morale de l'humilité personnelle et de la lucidité politique pour les gouvernants. Et on peut dire aussi la même chose de l'esprit d'égalité en Amérique. Alors que les références religieuses y ont été particulièrement explicites pendant la période révolutionnaire, comme en témoigne avec éclat le fait que la première des vérités, qualifiée d'évidence que l'on trouve dans la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, est, je cite, « que tous les hommes ont été créés égaux ». Il est également indéniable que les mouvements évangéliques du XVIIIe, superposés au socle de l'origine puritaine, ont trouvé dans les Écritures un langage et des arguments qui n'ont cessé d'être mobilisés par les combattants des colonies, tant ils semblaient aisément faire autorité. Mais ce sont cependant des conséquences inédites, beaucoup plus radicales que ces mêmes Américains ont tirées du message biblique. Ils sont opérés, dans leur cas, une sorte de subversion insensible de ce message. Subversion insensible, tant les mots ont semblé marquer une continuité là où s'opérait de fait une profonde rupture. Comprendre cette rupture, c'est souligner les équivoques de l'idée d'égalité naturelle. Au-delà même de la vision chrétienne de l'égalité, ce sont en effet les théories juridiques et philosophiques de l'égalité naturelle qui restent foncièrement équivoques, même si elles ont été le formidable vecteur que l'on sait de rupture avec l'ancien ordre. Témoigne de cette ambiguïté, de façon exemplaire, l'article que leur consacre Jaucourt dans l'Encyclopédie. Puisque la nature humaine se trouve la même dans tous les hommes, dit Jaucourt, il est clair que chacun doit estimer et traiter les autres comme autant d'êtres qui lui sont naturellement égaux, c'est-à-dire que ce sont des hommes aussi bien que lui. Mais Jaucourt ne tire pas de ses prémices les conclusions d'un Sieyès. En évoquant le repoussoir de ce qu'il appelle une égalité absolue, qu'il qualifie de véritable chimère, il dit en effet reconnaître, je le cite, « la nécessité des conditions différentes, la nécessité des grades, des honneurs, des distinctions, des prérogatives, la nécessité des subordinations qui doivent régner dans toutes les sociétés. » Jaucourt ne conteste donc nullement l'existence d'une noblesse avec tous ses attributs. Pour lui, l'égalité naturelle n'a en définitive qu'une dimension étroitement morale, qui n'emporte que des devoirs de charité, je le cite, d'humanité et de justice. Et on est bien loin dans ce cas de la sourde puissance que recèle en 1789 l'idée d'une égalité des semblables, avec la perspective d'une subversion illimitée des différences qui la constituent. Avec Jaucourt, peut-on dire, le point de départ est aussi un point d'arrêt. Alors que c'est au contraire, parce qu'elle recèle d'indéterminé et d'ouverture au possible que l'égalité démocratique se caractérise. L'égalité démocratique ne peut en effet être circonscrite et enfermée dans une définition qui mettrait fin aux interrogations, aux controverses et aux revendications qu'elle peut susciter. C'est d'ailleurs un des traits constants de la pensée conservatrice que d'avoir, à l'inverse, prétendu fixer l'égalité dans des catégories. Et rien ne témoigne mieux de cet état d'esprit que les réflexions philosophiques sur l'égalité de Necker, réflexions qui sont publiées en 1793, en annexe, ça forme le quatrième volume de l'ouvrage de la Révolution française, qui est en quelque sorte le testament philosophique de Necker, et qui ont donné à la littérature conservatrice du XIXe siècle son ton et ses arguments. Necker admet sans réserve l'idée d'égalité naturelle, aussi bien que l'égalité des droits. Mais il condamne ce qu'il décrit comme la dérive révolutionnaire de ses principes, qui conduit au fait, je le cite, que toutes les séparations tendent à être détruites, toutes les bandes de l'imagination ont été reculées, toutes les prétentions ont été mises en mouvement. Le problème est en effet pour lui que la destruction des distinctions injustifiées, celles qui sont fondées sur la naissance au premier chef, a tendu à se prolonger par une contestation généralisée des différences. On a fini par faire la guerre à toutes les supériorités, la guerre aux fortunes, la guerre aux talents, la guerre aux réputations, la guerre aux autorités passagères. On n'a rien voulu, dit-il, qui primât. Dès qu'une fois l'égalité politique apparut, le gage de toutes les autres égalités. Il n'y a donc rien de plus urgent pour Necker que de rompre l'enchaînement et l'enchantement. Comment ? Pour Necker, par un travail inlassable de rééducation des esprits et de domptage des passions populaires d'abord, afin, je le cite, de circonscrire dans ses vœux et de circonscrire dans leur ambition la grande masse des hommes. Par la réaffirmation ensuite de l'utilité, je le cite toujours, de l'utilité politique des différences d'État, de rang et de fortune. Car les inégalités économiques, voilà bien ce qu'il s'agissait au fond de séparer, de mettre une muraille entre le droit et l'économie. Et Necker redoutait d'abord qu'une révolution de la redistribution puisse finir par succéder ou par se lier à une révolution des droits. Et en une formule célèbre qui sera souvent citée au XIXe siècle, il dit « Les inégalités mises en harmonie, voilà le mot de l'univers ». Et c'était à ce programme que s'attelleront de fait tous les conservateurs du XIXe siècle, mettre en harmonie les inégalités du monde. Et ce sera le rôle, à ce qu'on peut appeler, à proprement parler, l'idéologie bourgeoise comme entreprise de légitimation du monde existant avec l'apparence d'une défense des principes fondamentaux et fondateurs de la révolution moderne. C'est dire que le problème consistait à suspendre l'imagination égalitaire des hommes, à suspendre cette dimension imaginaire de l'égalité qui était si fondamentale. Et sans avoir compris cependant ce qui la fondait et ce qui continuait à alimenter son ressort pendant la période révolutionnaire, à savoir la recherche d'une relation égalitaire toujours vivante, plus que la quête d'une distribution plus arithmétique des biens. Il faut bien prendre la mesure de ce qu'a été la révolution intellectuelle de la similarité pour se pénétrer de cette distinction essentielle entre l'idée d'une égalité comme relation et l'idée d'une égalité comme distribution. Comprendre cela, c'est comprendre ce qu'a été la révolution intellectuelle et sociale de la similarité. Au-delà de l'héritage chrétien et des théories du droit naturel, deux facteurs ont contribué au XVIIIe siècle à bouleverser les représentations antérieures du lien social et à rendre possible la révolution de la similarité. Le premier facteur est d'ordre anthropologique et biologique. Il dérive de la nouvelle appréhension de la notion d'espèce qu'a traduite l'œuvre de Buffon. Et le second facteur est plus sociologique et il est lié aux transformations de la catégorie d'individu. C'est par son essai « De la nature de l'homme » que Buffon ouvre, en 1749, son histoire naturelle. Dans cet ouvrage monumental, admiré par tout le siècle et qui fera référence dans tout le monde occidental, Buffon décrit l'homme comme un tout, un être unique et supérieur par essence, un être fondamentalement distinct de toutes les espèces animales par la nature de son entendement, la durée de son accroissement et de sa vie, l'existence de ce qu'il appelle un principe supérieur qui lui permet de multiplier à l'infini les opérations de son esprit et d'accroître la distance qui le sépare de la bête par une plasticité qui le fait se répandre, subsister et croître sous les climats, par sa complexité aussi, et du même coup, par la diversité des sociétés qu'il forme avec ses semblables. En montrant ainsi que l'identité de l'espèce humaine est un fait matériel, Buffon en modifie la perception. C'est en effet une objectivation qui conduit à une rééducation du regard et de l'entendement et à dépasser les simples considérations antérieures d'ordre moral sur la commune dignité des hommes. Donc c'est une naturalisation de l'idée d'humanité et non pas simplement une humanisation de la notion d'humanité. Cette vision a du même coup tendu à minimiser la portée des différences. C'est un passage célèbre de l'essai de Buffon entre l'homme policé et l'homme sauvage, par exemple, comme entre les habitants des différentes contrées du globe. Et dans le chapitre qui clôt cet essai sur la nature de l'homme, qui a pour titre « Variété dans l'espèce humaine », Buffon explique que les différences physiques d'apparence, de couleur de peau, ne résultent en fait que de causes, je le cite, de causes extérieures et circonstancielles, accidentelles, et qu'elles doivent donc être considérées comme susceptibles de nouvelles évolutions et même qu'elles sont potentiellement réversibles. En soulignant que le genre humain était totalement un à l'origine et que sa diversification n'a été que circonstancielle, Buffon invite à penser la catégorie d'espèce à partir de la notion de similarité. C'est là qu'est la révolution conceptuelle. Je le cite, « Tous les individus semblables qui existent sur la surface de la Terre sont regardés comme composant l'espèce de ces individus. C'est donc la similarité qui fait l'espèce. Et les termes de Buffon étaient tellement présents dans la littérature de la période que c'est bien sûr là qu'on a été puisé le mot de semblable. L'espèce, dit Buffon, est un mot abstrait et général parce qu'il fait considérer les qualités essentielles des êtres et non pas leurs apparences pour les penser comme catégories descriptives. Et Buffon utilise en fait là la définition de la similitude classiquement donnée par Leibniz. « Sont semblables, disait Leibniz, des choses entre lesquelles on ne peut faire d'autres différences intrinsèques que celles de la quantité. » Donc, alors que l'idée de quantité fait l'égalité, c'est l'identité de qualité qui définit la similarité. Voilà la grande idée de Buffon. C'est que l'égalité est une notion arithmétique fondée sur l'identité de quantité, alors que c'est l'identité de qualité qui va définir la similarité. Une redéfinition du rapport entre les hommes était rendue possible de cette façon, même si celle-ci peinera à se formuler essentiellement dans un nouveau langage, puisque c'est toujours le terme générique d'égalité qui exprimera de façon dominante, que ce soit en Amérique et en France, l'urgence de cet avènement de mondes semblables. Mais derrière le mot d'égalité, c'est bien cette idée d'identité de qualité et non pas d'identité de quantité qui était perçue. D'un autre côté, deuxième révolution, après celle, je dirais, de la transformation de la notion d'espèce et ce qu'elle emporte avec elle, la notion d'identité de qualité, c'est ce qu'on peut appeler l'avènement de l'individu. Le passage de l'homo hiérarchicus à l'homo equalis, pour employer les formulations classiques de Louis Dumont. Ce passage, l'homo hiérarchicus à l'homo equalis, c'est ce qui a, au deuxième chef, constitué un élément déclencheur de la demande moderne d'égalité. Je ne saurais ici, évidemment, traiter de façon globalement et systématique en quelques minutes cette question qui se confond avec l'histoire même des sciences sociales. Mais il convient cependant de rappeler que cet avènement ne peut pas être simplement compris sous le mode d'un processus de décomposition du collectif au profit de ce qui serait l'érection de ses composantes élémentaires, les individus. Car des individus, il y a toujours eu. Et l'attention aux histoires singulières ne date pas de l'histoire moderne. Et c'est bien davantage, donc, en termes de modalités de construction du lien social qu'il faut penser les choses. Dans les sociétés que l'on peut dire traditionnelles, c'est le rapport d'identification à des ensembles donnés fortement structurés qui est essentiel. Ces sociétés sont segmentées très fortement, qu'il s'agisse de castes, d'ordres, d'états, de corporations, peu importe, mais les différents sous-ensembles qui les constituent présentent, eux, des caractères homogènes. Et les facteurs de distinction et de similarité sont de cette façon comme encastrés et figés dans la vie sociale. La rupture décisive que va introduire la modernité dans cet état de choses est celle de la complexification et de la diversification. Sous un ensemble complexe d'influences, le développement des échanges, de la circulation des personnes, autant que du progrès des connaissances, les sociétés vont tendre à devenir plus hétérogènes. Et du même coup, les variations individuelles, pour reprendre le langage du naturaliste, y apparaissent plus marquées et plus sensibles. En conséquence, les modalités de constitution des identités individuelles et des appartenances sociales s'en trouveront profondément modifiées. C'est ce sur quoi les auteurs que j'ai rapidement mentionnés tout à l'heure, Tarde ou Simmel, mettront l'accent au tournant du XIXe siècle. L'apport majeur de Tarde dans ses lois de limitation, ouvrage de 1890, Tarde d'ailleurs, Tarde est un auteur qui mérite aujourd'hui non pas simplement d'être relu pour sa sociologie élémentaire, mais je souligne ce point parce que c'était le vrai fondateur de la psychologie économique. Et ces deux volumes de psychologie économique tendent aujourd'hui à être très relus, à la fois par les psychologues et par les économistes, tant ils ont, pourrait-on dire, vraiment déjà indiqué ce que serait la science économique moderne d'un certain point de vue. Et dans ses lois de limitation, Tarde a étudié le processus moderne de singularisation des individus et les conditions nouvelles dans lesquelles ils tendaient à se mesurer les uns et les autres. Et c'est là qu'il utilisait la notion que j'ai mentionnée de règne de la mode par rapport à un ancien règne de la coutume. En effet, ce n'est plus l'insertion dans un ordre extérieur ou l'identification à des principes hérités, la coutume, la religion, mais c'est le positionnement direct vis-à-vis d'autrui qui constitue le ciment de la société. Dans ce qui constitue le ciment de la société, c'est pas une identification à un ensemble, c'est un positionnement vis-à-vis d'autrui. Et dans cette perspective que l'on pourrait dire interactive, du lien social, individualisation et aspiration à un rapprochement de type inédit entre les hommes, celui de la similarité, vont de pair. La similarité est fille de l'individualisme. En même temps qu'elle constitue le vecteur d'une recherche de ressemblance avec certains, la mode qu'a étudié Tarde, et d'ailleurs Simmel aussi, Simmel a un texte très célèbre sur la mode, la mode constitue certes en même temps le ressort d'une entreprise de distinction vis-à-vis d'autrui. Mais ce faisant, elle ne s'en insère pas moins dans un univers de commensurabilité générale qui reste toujours ouvert, dont nul n'est a priori exclu. Et c'est cela son ambiguïté, c'est qu'il y a un élément de l'égalité et de la distinction. Et Simmel, de son côté, a justement employé une expression devenue célèbre, celle d'individualisme de la similitude, pour qualifier le mouvement des sociétés européennes au XVIIIe siècle. Simmel, qui parlait à l'inverse d'ailleurs d'un individualisme de la dissimilitude dans notre texte. L'individualisme de la dissimilitude, c'était celui de l'individu romantique qui visait à la distinction radicale du moi, à la séparation vis-à-vis des autres. Alors que cet individualisme de la similitude, il correspond à l'aspiration à l'autonomie et à la liberté, alors indissociable d'un éthos égalitaire. La perspective individualiste, écrit Simmel, avait comme présupposé que les individus, débarrassés de toute entrave historique et sociale, se révéleraient pour l'essentiel semblables entre eux. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les formes agrégatives. Une fois leurs énergies personnelles débarrassées des ordres, des tutelles ou des structures imposées, les individus, pensait-on, pourraient s'affirmer pleinement comme êtres humains. Et c'est la part de généralité qu'il y avait en eux qui était en effet niée dans un monde qui réduisait chacun à sa condition et l'assignait par là à une existence mutilée. Être soi-même n'était pas différent d'être semblable aux autres dans ces conditions. Voilà la révolution que Simmel a aidé à comprendre. L'individualisme qui tendait ainsi à se réaliser, dit-il, avait donc à la base l'égalité naturelle des individus, la représentation que toutes ces entraves avaient été des inégalités artificiellement créées et que, si l'on mettait de côté ces inégalités artificiellement créées, avec leur contingence historique, leur injustice, leur pression, l'homme parfait surgirait. Et on voit bien, de ces différentes manières, que l'idée d'un monde semblable renvoie à un type de qualité du lien social, beaucoup plus qu'à la définition d'une norme redistributive. Et cela, bien sûr, n'en laisse pas moins ouverte la question du régime des distinctions admissibles dans ce monde de semblables. Et c'est à cette question-là, du régime des distinctions admissibles, que nous consacrerons le cours de la prochaine heure. Ce cours de la prochaine heure soulignera donc que le problème n'est pas simplement d'être des semblables, mais de vivre en semblables. Et quelles sont les conditions de la vie en semblables ? On voit, pendant les révolutions américaines et les révolutions françaises, que sont développées tout un ensemble de réactions qui, une fois qu'on les reprend avec le regard de la théorie sociale, peuvent apparaître comme dessinant une économie générale de la similarité. Et c'est à présenter cette économie générale de la similarité que je consacrerai le cours de la semaine prochaine. Pour dire donc qu'une philosophie de la similarité, ou si l'on peut dire une anthropologie de la similarité, ou on pourrait dire aussi une sociologie de la similarité, est indissociable d'une considération de l'économie des différences admissibles. Quelle est cette économie des différences admissibles dans une vie de semblables ? Eh bien, les révolutions américaines et françaises ont apporté tout un ensemble de considérations et de réponses qui théorisaient forment un système économique dont je vous présenterai les ressorts la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine.